10h, 11h sur RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et bonjour, bienvenue dans Et puis c'est tout, l'émission qui chaque mois traite des épilepsies. Et ce mois-ci, un sujet que nous avons choisi de traiter, le sujet des épilepsies et de la parentalité, notamment de la maternité. Pour ce, nous aurons des témoins et un professeur en épiloptéologie qui répondront à nos questions. Bienvenue tout le monde, on est ensemble jusqu'à 11h.
10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
Et avant de les présenter, je vous présente celle qui m'accompagne très régulièrement dans cette émission. Bonjour Céline.
Salut Thomas.
Comment ça va ce matin?
Ça va très bien.
Alors
bonjour
Céline,
à tous.
Je rappelle que tu es animatrice de la communauté de pratique épilepsie et handicap Nord-Est. Un petit mot pour nous expliquer ce que c'est?
Exactement. Alors, on est un collectif de personnes intéressées par les épilepsies, donc dans personnes épileptiques elles-mêmes, leur entourage, les professionnels, qu'ils soient du secteur sanitaire, médico-social, tous ceux qui sont intéressés à nouveau pour venir réfléchir, construire, partager, développer des choses autour des épilepsies sont les bienvenus. Je profite de ce tout petit temps d'antenne pour remercier justement dans le cadre de cette émission. Et puis c'est tout. Là, vous voyez qui est autour de la table et vous nous entendez nous, mais pour autant on est tout un tas de collaborateurs qui concourent à cette émission et donc je tiens à les remercier. On est aujourd'hui à la 7e émission sur un cycle de 10, donc je remercie la Fédération EFAP, l'association Accueil Épilepsie Grand Est et l'association Épilepsie France, les services de neuropédiatrie et de neurologie du CHRU de Nancy, le centre de ressources épilepsie sévère et handicap rare et Ségolène Doyon qui concourent tous et toutes au choix des sujets, à l'organisation avec les témoins et aux contenus qui sont proposés ici.
C'était
voilà.
Bien
merci à
et
tous.
Important de les remercier, on les remercie tous évidemment. Avec toi Virginia, bonjour Virginia.
Bonjour.
Alors c'est une première Virginia.
C'est ça.
Tu es conseillère référente au centre de ressources épilepsie sévère et handicap rare.
C'est ça.
Ton métier c'est...
Je suis éducatrice spécialisée.
D'accord, très bien. Et tu nous accompagnes sur cette émission et je vois que tu vas nous accompagner sur les suivantes également. Pour nous accompagner dans la thématique choisie aujourd'hui, je rappelle, on va parler donc de parentalité et d'épilepsie. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Louis Maillard. Bonjour professeur Louis Maillard.
Bonjour Thomas.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes vous responsable du centre d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy.
C'est bien ça.
Et avec vous, on va évidemment voir tout ce qu'on peut faire quand on est une femme, qu'on souffre d'épilepsie et qu'on a envie d'avoir un enfant. Et justement, on a deux témoins et je suis très heureux de vous accueillir toutes les deux. Il y a Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Monsieur Carion.
C'est la première fois qu'on m'appelle comme ça à l'antenne Marie. Bienvenue Marie, je suis content de vous accueillir. Vous êtes maman d'un petit garçon qui a 18 mois.
Tout à fait.
Et vous nous raconterez tout à l'heure que avant d'avoir cet enfant, vous souffriez déjà d'épilepsie.
Exactement.
Et vous nous raconterez votre parcours. À vos côtés, Sabrina. Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Vous, votre enfant a 13 ans, c'est un garçon aussi?
Non, c'est une fille.
C'est une fille, bah voilà, il fallait que je me trompe au moins une fois. Et alors, vous, le parcours est un peu différent? Avant d'avoir l'enfant, vous n'étiez pas, vous ne souffriez pas d'épilepsie. Oui. Votre maladie est arrivée il y a 10 ans.
Il y a 10 ans.
C'est d'ailleurs, je crois, le mois anniversaire de,
oui, voilà, juin
du
2014,
diagnostic.
Voilà.
Et alors vous pourrez nous raconter aussi tout votre parcours quand on est maman, qu'on a des enfants à éduquer. Comment ça se passe quand en plus on souffre de troubles de l'épilepsie?
Oui.
On va se raconter tout ça dans cette émission. Merci à toutes les deux en tout cas de la confiance que vous nous accordez en venant témoigner à notre micro. Aujourd'hui, comme chaque fois vous le savez, on commence cette émission en écoutant la parole des gens qui dans la rue sont interrogés et on leur pose des questions sur la thématique. Aujourd'hui, Virginia, Céline, la première question qu'on leur a posée dans la rue, c'est Virginia.
Alors la première question était, est-ce qu'une personne épileptique peut devenir parent?
Eh bien on écoute les réponses maintenant.
Pour moi, oui. Écoutez, je pense qu'il y a assez d'études, il y a les traitements, il y a tout ça, donc je pense que oui.
Ça, j'ose y croire. Et je pense qu'il doit y en avoir énormément des exemples comme ça. Et je pense pas que l'épilepsie soit un frein à l'éducation d'un enfant.
Mais oui, pourquoi pas. Oui, à partir du moment où elle a un suivi médical, je vois pas ce qui pourrait l'en empêcher.
Je connais pas grand-chose à l'épilepsie, mais je dirais que oui, s'il prend certaines dispositions, il va se suivre par un médecin, j'imagine, déjà.
Oui, bien sûr, du moment qu'il soit traité et qu'on fasse attention au moment où ils veulent faire un enfant, ben oui, bien sûr.
D'accord.
Je pense que oui, parce que la médecine, elle a bien avancé, donc normalement, oui, il suffit juste qu'il y ait un suivi. S'il y a des médicaments à prendre, les prendre correctement et puis se suivre, normalement, ça ne gêne rien en fait d'être parent.
Je crois que oui. Mais après, je ne suis pas très renseignée sur le sujet, mais il me semble que c'est possible.
Je pense que oui.
Ben, pour moi, l'épilepsie, déjà, c'est une maladie qui se soigne, je crois. Et donc, je suppose que ça n'empêche pas de fonder une famille.
Bon, l'épilepsie, c'est une maladie qui soigne, on l'entend. A priori, on peut donc, d'après les gens, être parent quand on souffre d'épilepsie. Qui veut réagir à ce qu'on vient d'entendre dans le micro-trottoir ? Peut-être vous, professeur Maillard, parce qu'on entend beaucoup parler de la médecine, du suivi, et on y reviendra tout à l'heure, évidemment.
Oui, les maladies épileptiques, comme la plupart des maladies neurologiques, en fait, sont compatibles avec une grossesse, d'une part, hein, puisque avoir un enfant, c'est le concevoir, c'est les 9 mois de grossesse, et puis c'est toute la partie éducative. Donc, c'est compatible dans l'immense majorité des cas avec une grossesse et avec la parentalité. Bien entendu, comme l'ont rappelé les personnes que vous avez interrogées, ça nécessite un certain accompagnement, un certain suivi médical qu'on pourra éventuellement aborder plus avant.
On en parlera évidemment, oui, on en parlera notamment avec Marie, hein, parce que vous avez donc conçu un enfant en souffrant d'épilepsie, donc vous nous raconterez tout à l'heure. Vous voulez réagir peut-être justement toutes les deux sur ce que vous venez d'entendre ?
Je suis agréablement surprise d'entendre qu'un globalement, oui, on peut. Les gens pensent que oui, donc c'est...
C'est positif d'entendre ça,
oui,
ça vous fait du bien d'entendre.
C'est positif, oui.
Marie ?
Moi aussi, c'est vrai que je suis assez surprise, en fait, d'entendre que, malgré certaines préjugés, voilà, on peut quand même devenir parent en étant épileptique, justement.
Eh bien, c'est bien, on est là hein, pour traiter des préjugés. Vous avez raison, Marie, il y a beaucoup de préjugés, mais on se rend compte que finalement, là, globalement, les gens sont plutôt d'accord pour dire que si on est bien suivi, on peut, évidemment, en souffrant d'épilepsie, comme de beaucoup d'autres maladies, concevoir un enfant. La deuxième question qu'on a posée dans la rue, Céline ?
Alors, la deuxième question était, y a-t-il des spécificités dans le suivi de la grossesse ?
Eh bien, on écoute les réponses.
Bon, je pense que leur grossesse peut être suivie correctement, hein, comme toute autre grossesse. Dès l'instant où il n'y a pas de crise et qu'elle tombe, que se fasse mal ou faire mal au bébé qui est là dans le ventre, normalement ça devait le faire.
Bah, peut-être de se faire dépister soi et dépister si l'enfant que l'on porte pendant la grossesse peut être porteur je sais pas si on dit des gènes sur l'épilepsie.
Oui, il vaut mieux faire attention. Après, n'étant pas médecin, je ne saurais pas non plus dire précisément, mais il faut peut-être faire attention, oui.
Je pense pour les médicaments, il faut faire attention, par exemple. Mais sinon, ouais, je sais pas.
Mais du moment qu'elle est bien équilibrée, bon, il faut peut-être qu'elle ait un suivi un peu plus important. Il faut peut-être qu'elle ait quelques prises de sang. Moi, je ne sais plus maintenant. Voyez, bon, il faut qu'elle soit suivie.
Il y a un suivi médical quand même, quelque chose à mettre en place hein, pour une personne qui est atteinte d'une épilepsie et qui se retrouve enceinte. Oui. Après, je pense qu'il existe des centres médicaux, non, spécialisés là-dedans. Je suppose, hein, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il y a quand même qu'il existe des centres médicaux. J'espère, du moins, parce que quand même, c'est assez réputé. C'est pas... Voilà.
Des spécificités...
En vrai, je ne sais pas non plus, mais je suppose qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer le fait de faire des crises d'épilepsie, sans savoir lesquels, mais... Voilà.
Voilà, encore, on sent que les gens sont plutôt assez renseignés. En tout cas, ils ont des idées assez claires et précises. Professeur Maillard, on entend la notion d'être bien équilibré. Est-ce que ça fait partie des critères importants quand on veut concevoir un enfant et qu'on souffre d'épilepsie ? En quelques mots, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être déjà pour réagir à ce qu'on entend là.
Oui, il y a beaucoup de bon sens dans les réponses que j'ai entendues. Il y a la question du risque des crises sur la grossesse, oui, mais aussi du risque éventuel que la grossesse peut faire peser sur l'équilibre de l'épilepsie. Très clairement, le fait d'avoir une maladie équilibrée ou non équilibrée, c'est pas un critère qui va empêcher de faire une grossesse, mais c'est un critère vraiment qui va déterminer, gérer deux types de suivi un peu différents, évidemment, et un type d'accompagnement différent.
On en reparlera et on reviendra un peu tout à l'heure aussi sur cette notion d'épilepsie en général et peut-être d'épilepsie plus rare aussi, de formes d'épilepsie plus rares. Mesdames, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, vous, le suivi, et je m'adresse peut-être plus à Marie qui a connu ça, de ce que vous entendez, de ce que disent les gens dans la rue, est-ce que ça vous fait réagir ? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez en redire ?
Alors moi, quand ils disent que l'épilepsie, il y a des suivis, c'est vrai que moi, quand j'étais enceinte de mon fils, j'ai maintenant de 18 mois, j'ai été... étroitement suivi vis-à-vis de justement de mes crises et de mes médicaments. Parce que c'est vrai que il y a un moment donné où on a eu peur qu'il y a eu le taux de grossesse allait diminuer justement l'effet des médicaments. Et on a essayé, on va dire, de me faire des prises de sang réguliers pour savoir s'il fallait augmenter la dose de mes médicaments ou bien alors les stabiliser à ce moment-là.
Donc on reviendra sur tout le suivi qu'on met en place, peut-être effectivement, professeur Maillard, vous nous expliquerez tout à l'heure. La dernière question qu'on a posée aux gens dans la rue, Virginia.
Donc la dernière question était, est-ce qu'un parent épileptique peut élever seul son enfant ?
Seul, ça c'est non, non, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je préfère qu'il y ait de la surveillance, quoi, parce que seul, non, on peut le faire tomber, on peut le, dans un moment de crise d'épilepsie, il y a toujours de la responsabilité, enfin, si on est parent, tout ça bien sûr, mais maintenant je peux me tromper, hein, je sais pas. Hein.
Oui. Bah, sauf qu'il y a ces crises, quoi. Il y a des réserves. Voilà, ça dépend peut-être de la fréquence des crises, de l'intensité des crises. Je pense que l'épilepsie, il y a plusieurs niveaux.
J'avoue que dans ce cas-là, je sais pas, il faut aussi voir la fréquence des crises et tout ce qui peut arriver à cette personne-là et qui pourrait faire que ça peut arriver dans un moment où elle est isolée. Je pense qu'il y a des protocoles qui peuvent être mis en place pour aider cette personne et être accompagnée au quotidien. Dans le cas de crises qui peuvent survenir.
Je pense que c'est plus compliqué parce que c'est quand on fait une crise, enfin quand quelqu'un va faire une crise, qui va gérer ? Alors surtout quand c'est un nourrisson, après en effet, limite adopter un enfant un peu plus grand, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'au niveau nourrisson, c'est plus compliqué en cas de crise. Mais après, il y a peut-être des choses qui sont mises en place aussi, je sais pas.
Mais le fait d'être seul, de toute façon, elle peut être quand même accompagnée, elle peut avoir une aide, non ? Je suppose, non ? Est-ce que ça existe pas une aide ? À partir du moment où elle est suivie, ça quand même, ça n'arrive pas à toutes les 5 minutes d'avoir une crise d'épilepsie. Enfin, je sais pas trop. Là, vous me posez une colle. Là, donc...
J'imagine qu'il y a peut-être des choses à mettre en place parce que si on fait une crise, enfin si on est seul et qu'on fait une crise d'épilepsie et qu'on a la responsabilité d'un petit être, il faut que quelqu'un puisse intervenir, qu'on sache qui appeler ou un bouton d'urgence ou je sais pas.
Bon, pareil, beaucoup de bon sens dans ce qu'on entend, j'imagine, on va y revenir. En attendant, je précise quand même une chose, on ne fait pas des crises d'épilepsie toutes les 5 minutes. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas vu. Voilà, c'est bien de se le dire aussi. Parlons justement rapidement, en un mot, professeur Maillard, sans tout dévoiler, mais est-ce qu'on peut élever, éduquer seul un enfant quand on souffre d'épilepsie ?
La réponse est oui. À condition où, disons, c'est d'autant plus facile à imaginer que la personne qui a cette épilepsie est bien stabilisée avec les traitements. Parce que finalement, une personne bien équilibrée avec un traitement bien toléré, elle va mener une vie quasiment normale et la parentalité va dans le même sens. Bien entendu, lorsque les crises persistent, la réponse doit être beaucoup plus nuancée et adaptée à chaque situation. Ça va dépendre du type de crise, de leur fréquence, de l'âge de l'enfant et du type de geste de parentalité. Par exemple, on va transformer un bain pour un enfant qui est en petit âge en une douche dans la baignoire plutôt que de mettre un bain. Donc il faut vraiment adapter à chaque situation les mesures qu'on va préconiser.
Ça rejoint un petit peu ce que disait une des personnes qui parlait de protocole d'accompagnement peut-être. Et...
Oui, alors, il n'y a pas d'accompagnement médico-social, mais on va vraiment adapter les recommandations.
C'est ça.
À chaque situation, les patients peuvent bénéficier au sein du CHRU de Nancy de séances d'éducation thérapeutique qui vont aborder aussi ces questions-là, c'est important de le préciser, éducation thérapeutique qui sont pilotées par le docteur Irina Klemina et madame Ludivine Rohrer, qui est infirmière en pratique avancée dans le service. Et c'est typiquement un sujet sur lequel l'éducation thérapeutique peut avoir un apport essentiel.
On réexpliquera peut-être tout à l'heure ce qu'est l'éducation thérapeutique pour bien comprendre pour les gens qui n'ont jamais été concernés. Marie, vous êtes maman, votre petit garçon a 18 mois et vous vivez seule aujourd'hui avec votre enfant ?
Alors je vis seule avec mon fils aujourd'hui, oui.
D'accord, donc du coup par rapport à ce que vous avez entendu, il y avait peut-être des réactions que vous avez ou des choses qui...
Moi personnellement en fait c'est vrai qu'au niveau de l'accompagnement, parce que moi je suis épileptique depuis la naissance, alors mon épilepsie est due à une maladie rare qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville. Et c'est vrai que, en fait, ça a eu du mal à un moment donné à stabiliser. Heureusement que, justement, j'ai toujours un neurologue qui a su quand même stabiliser les choses. Mmh. Et il est présent parmi nous.
Il ne le savait pas lui-même.
Et puis, en fait, j'ai... avant d'avoir ce projet justement de parentalité, j'ai quand même essayé de stabiliser en tout cas mon épilepsie pour ne pas avoir de problème justement. Parce que mon épilepsie avant, j'en faisais deux fois par jour. Ce n'était pas maintenant où je n'en fais plus.
Ouais, ça fait un petit moment, je crois, que vous n'en faites plus des crises.
Ça fait 7 ans.
7 ans sans crise. C'est bien.
Je touche du bois.
Touche avec vous. Merci Marie. Et vous Sabrina, alors vous l'épilepsie est arrivée après, vous aviez déjà votre petite fille qui avait 3 ans du coup, c'est ça?
Elle avait 3 ans et demi, elle était en maternelle déjà, donc, donc c'était... J'entends dans le micro-trottoir des choses quand même assez positives.
Allez-y, on vous écoute.
Et les gens parlent de surveillance, de responsabilité, de sous-réserve, et beaucoup de compliqués pour un nourrisson, donc je comprends la crainte des gens pour le bébé, pour l'enfant, bon. Moi, ma fille avait 3 ans et demi, j'ai dû lui apprendre comment je fonctionnais, comment fonctionnaient mes crises. Et on a fait cette espèce d'inversion, en fait. C'est elle, aujourd'hui, qui continue, du haut de ses 13 ans, de me protéger, en fait. Elle est devenue mon ange gardien, quelque part, de tous les jours, parce que je suis pharmacorésistante, donc je continue les crises, mais je ne fais plus les crises généralisées d'il y a 10 ans. Je suis passée, grâce aux médicaments, à des crises partielles, ce qu'on appelle des partielles simples. Donc c'est pas bien méchant, mais il faut quand même que l'enfant soit là pour l'avoir, m'aider. Donc c'est son quotidien.
Très bien, ben, on va en reparler tout à l'heure ensemble. On va revenir sur un certain nombre de choses qu'on a pu entendre, parce qu'il y a quelques craintes quand on est... J'entendais sur la grossesse, sur le moment de la grossesse, et sur effectivement le nourrisson, on y reviendra dans un instant. Je vous propose qu'on se laisse quelques minutes de respiration avec un titre que vous avez choisi qui s'appelle « La vie d'abord ». Ce titre-là, qui peut m'en parler ?
Peut-être Sabrina ?
Sabrina.
C'est l'association Épilepsie France qui a créé ce clip, cette chanson, qui parle donc de l'épilepsie en général. Le son est assez gai, entraînant, avec une parole au début de José dans Scène de ménage, vous savez, Frédéric Borrelli. Et donc la chanson est entraînante, il n'y a pas de « je suis triste, je vais mourir
». Mais on vit bien quand
la
on
vie d'abord, d'une... Exactement. C'est le titre.
Eh bien écoutez, je vous propose qu'on la découvre maintenant sur RCN et dans un instant on revient et on continue de parler de ce sujet. Peut-on être parent quand on souffre d'épilepsie ? Vous l'aurez compris, la réponse est oui, mais on va détailler tout ça. La vie d'abord, c'est maintenant.
Toi qui me crois toc toc et qui flippe, écoute, je décrypte en musique. Comment t'expliquer si vite, c'est pas le trip d'être épileptique. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort, moi je suis comme toi, j'ai bien une âme et un cœur. Je suis cool et j'aime le sport. Pour moi, tu sais, quand ça roule, je suis le roi des déconneurs. Je blague à toute heure, mais si j'ai peur de la foule, je suis plein de bonne humeur, mais tu vois, ça me fout les boules. Avant, tu sais, j'en savais rien. Je me suis levé de bon matin, comme si de rien. Fier, beau et fort, je garde la même devise. Pour moi, c'est la vie d'abord. Ce qui m'en fout, ce qui me fait mal, c'est quand on se fout de moi, qu'on me croit malade mental. J'ai pris le pli et j'aimerais bien aujourd'hui, plutôt qu'à mon psy, te parler d'épilepsie. C'est dans ma carte mentale, alors que tout est normal. D'un coup, va savoir pourquoi j'ai les neurones qui s'emballent. Je dessine cette image, ton cerveau fait des nuages. Et contrairement à toi, les miens éclatent en orage. Souvent, tu sais, tout va très bien. Je suis pas non plus un bon à rien. J'ai vu le doc, celui qui prescrit mes médocs. Avec le temps, c'est presque devenu mon pote. Mes promenades sont si proches des étoiles. Dans le citron, mais y a pas de pépin qui se balade. J'aime la vie, la mienne, je l'ai pas choisie. Puis t'es pas la drique, ce qui m'arrive t'arrive aussi. L'épilepsie, ça frappe n'importe quand, les grands aussi les petits. Ma palabre, là, ma colère, papa là, j'en ai marre de me taire. Et si mon corps a quelques sautes d'humeur, en alimentant ma honte, vous allez briser mon cœur. Tu sais, tout allait bien, puis c'est venu comme ça, l'air de rien. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort, moi je suis comme toi, pour moi c'est la vie d'abord. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort, moi je suis comme toi, pour moi c'est la vie d'abord.
10h, 11h sur RCN, et puis c'est tout.
Et ce matin, on traite du sujet « Peut-on être maman quand on souffre d'épilepsie ?» Je me tourne vers vous tout de suite, professeur Maillard. Je rappelle que vous êtes responsable du centre d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy. Et je pense que c'est une question que vous avez quand même très souvent. Est-ce que quand une jeune femme qui vient vous voir, est-ce que je peux avoir un enfant? C'est une question que vous avez souvent, ça, non?
C'est une question qui est extrêmement fréquente. Et derrière cette question, en fait, elle se décompose en plusieurs interrogations ou plusieurs craintes. La première crainte, c'est est-ce que je risque de transmettre la maladie à mon enfant? Quel est le risque? La deuxième crainte, c'est quel est le risque qui accompagne en fait la prise du médicament pendant la grossesse, c'est avec vrai, l'exposition du fœtus et de l'embryon au médicament. Et puis ensuite, bien sûr, c'est la question de l'éducation et de la parentalité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc oui, bien sûr, c'est une question qui se pose extrêmement fréquemment pour les femmes, majoritairement, mais aussi pour les hommes. Mmh. Hein, et surtout dans le contexte où il y a plus en plus de familles monoparentales. C'est plus souvent avec la maman, mais parfois c'est avec le papa. Et donc, ça se pose très fréquemment.
Et dans les questions posées, il n'y a pas la question de « je suis enceinte, je fais une crise d'épilepsie, est-ce que ce n'est pas risqué pour... »
Si, bien sûr. L'impact de la grossesse potentielle, enfin des crises potentiellement sur la grossesse. Alors, si je peux apporter un élément de réponse...
C'est le moment. Hein.
Alors, il y a vraiment deux types de crises. Ça a déjà été évoqué par Sabrina dans son histoire. Il y a des crises qui sont ce qu'on appelle généralisées, d'emblée ou secondairement généralisées, qui vont s'accompagner d'une chute, de convulsions. C'est l'image qu'on a de la crise classique. Très clairement, ce type de crise-là doit être contrôlé le mieux possible pendant la grossesse, parce qu'en effet, elle peut mettre en danger l'enfant. Lorsqu'on a affaire à des crises qui sont plus petites, qu'on appelle des crises partielles ou focales, s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de moment de confusion prolongée, la crise en elle-même ne représente pas un danger pour le bébé, pour le fœtus.
Voilà. Oui,
Donc chez les personnes qui sont bien contrôlées, la question ne se pose pas. Chez les personnes qui ne sont pas bien contrôlées, on va vraiment mettre l'accent sur le plan thérapeutique, sur le fait de supprimer et de contrôler les grosses crises, les crises généralisées, et quitte à tolérer des crises moins importantes pour éviter une escalade thérapeutique, parce que comme toujours, on est sur une ligne de crête entre contrôler les crises d'un côté qui peuvent être dangereuses pour la maman et pour l'enfant, mais aussi éviter une escalade thérapeutique excessive qui serait aussi en retour dangereuse pour l'enfant.
Mais donc, si je comprends bien, il y a quand même un espèce de prérequis qui serait sur un équilibre quand même de la gestion des... En tout cas, la gestion des crises, quoi.
Un équilibre sur les crises les plus...
Les plus importantes, ouais, c'est ça.
Mais dans les crises, dans les épilepsies focales, qui sont les causes, les types d'épilepsies qui sont le plus souvent résistantes aux médicaments... Si on n'arrive pas à supprimer toutes les crises, comme c'est le cas dans 30% des patients, en général, les crises les plus fortes, les crises secondairement généralisées, on y arrive à les contrôler.
Alors, on parle de ces crises-là, mais il y a aussi tous ceux qui ont des crises beaucoup plus, alors, je ne sais pas si on dit légères, en tout cas, qui ont des épilepsies, et c'est la majorité d'ailleurs des personnes qui souffrent d'épilepsie. Du coup, cette question-là se pose un peu moins, j'imagine.
Chez ces patients-là, il faut s'assurer, il faut essayer de bien connaître les symptômes des crises, avoir une description très précise par les patients, par leur entourage, pourquoi pas des vidéos de l'entourage, pour qu'on ait vraiment qu'on soit en présence du symptôme et qu'on puisse évaluer le risque éventuel. Et dans la majorité des crises focales, comme je l'ai dit, lorsqu'il n'y a pas de chute, lorsqu'il n'y a pas de trouble de conscience prolongé, finalement, le danger que représente la crise pour le bébé, pour le fœtus, est minime.
Vous parliez aussi donc du traitement thérapeutique, et que c'est une question qui revient souvent et qu'on peut comprendre. L'impact des médicaments et je vais dire, de la chimie sur le fœtus, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors c'est une question qui a été d'actualité il y a quelques années. C'est une question qu'on se pose depuis les antiépileptiques, depuis l'explosion du nombre de médicaments antiépileptiques dans les années 1970 et plus récemment 2000. Puisqu'on est passé dans les années 70 à 3 médicaments antiépileptiques, à maintenant plus de 30 médicaments antiépileptiques. Alors, cette explosion, ce développement de nouveaux médicaments n'a pas forcément apporté une efficacité différenciante sur les épilepsies qui étaient déjà résistantes aux médicaments. Par contre, on a vu apparaître des médicaments pour lesquels maintenant on a un recul suffisant et dont on sait, grâce à des registres internationaux de suivi des femmes avec épilepsie qui prennent un médicament pendant la grossesse, on sait qu'on a identifié un certain nombre de médicaments dont on sait qu'ils sont compatibles avec la grossesse. C'est-à-dire qu'ils ne représentent pas un sur-risque en termes de malformation pour le bébé à naître, mais aussi il ne représente pas un sur-risque en termes de troubles du développement ultérieur. Pourquoi c'est important? Parce que ces troubles du développement ultérieur, on ne peut pas les observer pendant la grossesse. La grossesse, elle aura beau être suivie, on ne pourra pas le prédire. On ne s'en apercevra qu'a posteriori, trois ans, six ans après la naissance. Mmh. Et donc ça, c'est tout un champ de recherche qui s'est énormément développé au cours des 10 dernières années et sur lequel on a accumulé énormément de connaissances. Encore un petit mot, si vous me permettez.
Bien sûr, allez-y.
Pour les antiépileptiques les plus récents, malheureusement, tant qu'on n'a pas un recul suffisant de grossesses qui ont été exposées aux médicaments antiépileptiques, on ne sait pas.
Mais ça veut dire qu'un patient qui a certains traitements peut être voir son traitement modifié au moment d'une grossesse alors ?
Avant. Merci de cette question, avant. Avant, et c'est la raison pour laquelle il est si possible, alors moi je dis souvent aux femmes en âge de procréer que je suis, de me prévenir quand elles ont un projet de grossesse, quasiment je dois être prévenu au même moment que leur conjoint. Je dis pas avant parce que ce serait
gênant pour le conjoint qui pourrait mal le prendre. Vous pouvez souhaiter d'avoir quelques pépins.
Mais quasiment il faut m'en parler avant, au moment où l'idée commence à germer. Et même très souvent, quand on connaît un peu nos patients, on les suit régulièrement. Moi, j'aime bien connaître leurs conditions de vie, leur situation familiale, professionnelle. Quand on sent qu'il y a une relation affective qui se stabilise, c'est vraiment un sujet que moi, je vais même anticiper et aborder. Est-ce que dans les années qui viennent, vous avez un projet de grossesse ? Parce que vraiment, ça va se préparer en optimisant au maximum le traitement, d'une part en termes d'efficacité sur les crises et d'autre part en termes de lourdeur du traitement. C'est-à-dire qu'on va essayer de minimiser la lourdeur du traitement, minimiser le nombre de médicaments et essayer, si nécessaire, de changer de molécule pour privilégier des molécules dont on sait qu'elles sont inoffensives pour le bébé.
Et pourquoi il faut le faire avant ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire bah, « Tiens, j'ai le projet de grossesse là, je suis peut-être dedans. » Qu'est-ce qui fait qu'il faut vraiment prévenir en amont ? C'est parce que les traitements peuvent avoir un impact encore après coup ?
Non. En fait, il faut le faire avant parce
pour
que...
Pour vraiment préparer,
parce qu'en fait, si vous voulez,
on prépare le terrain.
Le cerveau, parce que c'est de ça dont on parle, le développement des organes, puisqu'en fait, les effets indésirables éventuels de certains antiépileptiques sur le développement du bébé concernent le cerveau du bébé, mais aussi le développement d'autres organes. Et en fait, ce développement, il intervient dès le début de la grossesse, dès le premier jour de la grossesse, finalement. Donc, il s'agit de préserver toutes les phases de développement de l'embryon et du fœtus dès le début, en fait. Et donc, pour ça, il faut anticiper.
Et une autre question donc, qui vous est très souvent soumise, c'est effectivement, et qu'on imagine volontiers, c'est est-ce que j'ai plus de risques de transmettre l'épilepsie à mon enfant ? C'est l'hérédité de l'épilepsie, est-ce qu'elle est avérée ? Qu'est-ce qu'on répond à ça ?
Ouais. Alors là aussi, il n'y a pas une réponse univoque. La majorité des épilepsies sont des épilepsies acquises, en fait, ou disons non transmissibles. C'est plus de 60% des épilepsies, et donc là, la question elle est vite évacuée. Non, vos enfants, ils ont le même risque que moi, que vous, nos auditeurs, d'avoir une épilepsie un jour. Ok, c'est-à-dire à peu près 1%. Ensuite, on a les épilepsies qui sont dites génétiques présumées, mais qui ne dépendent pas d'un seul gène avec un mode de transmission bien défini. Dans ces épilepsies-là, globalement, on sait que le risque de transmission est d'environ 9%.
D'accord.
D'accord ? Donc ça veut dire, moi j'essaie de voir le verre à moitié plein ou à 90% plein, on va dire, c'est-à-dire, ça veut dire vos enfants ont
9 chances sur 10
de ne pas avoir cette maladie. Et puis, il y a des formes qu'on appelle monogéniques qui sont liées à un variant pathogène sur un gène donné, une mutation ou une anomalie sur un gène donné, qui est un gène qui est présent dans toutes les cellules de la maman ou du papa qui est porteur. Et où là, on va avoir un mode de transmission avec un risque qui est connu dans le cadre, par exemple, d'une transmission, ce qu'on appelle autosomique dominante. Ce risque est de 50%. C'est au maximum 50%. Ça peut être moins. Voilà. Et donc, on va adapter notre message en fonction de ce que l'on sait de la maladie. Et c'est pour ça aussi qu'il est absolument capital, en fait, d'avoir un diagnostic le plus précis possible sur le type de maladie épileptique.
Le fait de bien connaître ses patients avant, finalement, ce que vous disiez.
Le fait d'avoir un suivi régulier avant, de bien les connaître, d'avoir été le plus loin possible dans le diagnostic de la forme d'épilepsie, de la cause, dans l'optimisation du traitement. Et je voudrais encore ajouter, si tu me permets, Thomas... Lorsqu'on envisage avec nos patients un projet de parentalité, un projet de grossesse, on a mis en place à Nancy depuis une dizaine d'années, en partenariat avec la maternité régionale, donc une collaboration avec des médecins qui sont parfaitement identifiés au sein de la maternité régionale et qui connaissent extrêmement bien toutes ces questions, en fait. Et donc, ils vont accompagner dès la phase de préconceptionnelle, c'est-à-dire sous la forme d'une consultation préconceptionnelle, puis ensuite, pendant toute la grossesse, ça peut être un accompagnement un petit peu de loin en loin, en partenariat avec l'obstétricien ou la sage-femme qui suit la patiente, ou ça peut être un suivi complet à la maternité par ces gynécologues obstétriciens partenaires et parfaitement informés.
Alors on se rend compte là, quand on vous écoute, professeur Maillard, que globalement, la réponse est oui, on peut avoir un enfant et c'est hyper positif.
Ah oui, bien sûr. Dans l'immense majorité, chez l'immense majorité des patientes, oui, bien sûr.
Non, ça c'est une bonne chose, c'est bien de le dire. C'est bien de se le dire aussi. Bon, même si on est plutôt soulagé d'entendre que les gens qu'on a interrogés dans la rue ont la même vision et que ça confirme, enfin plutôt vous confirmez ce que pensent les gens, et tant mieux. Je me tourne vers vous maintenant, Marie. Alors vous, Marie, justement, vous souffrez d'épilepsie. Je vous ai pas demandé depuis quel âge vous souffrez d'épilepsie.
Depuis tout bébé,
depuis
ma naissance, en fait.
Et alors, du coup, est arrivé un jour où petite fille ou plus grande fille, vous avez dit, un jour, je voudrais avoir un enfant.
Alors oui, il y a quelques... À l'âge de 20 ans, en fait, 23 ans, je suis tombée enceinte. Mmh. Et malheureusement, je ne savais pas, en fait, ce que ça allait donner au niveau des traitements, justement. D'accord. Au niveau des suivis. Vis-à-vis aussi de la maladie de la sclérose subérose de Bourneville, ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai décidé en fait d'avorter parce que je n'avais pas d'autres moyens. Et puis après ça, je me suis dit, bon, vu quand même de mon état de santé avec l'épilepsie, je préfère quand même ne pas avoir d'autres projets de parentalité en attendant que mon état de santé soit stable. Mmh. Et j'en ai d'ailleurs discuté avec professeur Maillard à ce moment-là. Qui m'a rassurée, il n'y a pas de souci, sauf que voilà, il y a quand même des suivis à faire. Mmh. Voilà. Et puis bon, ça s'est fait quand j'étais à Narbonne. J'ai énormément eu des suivis, des gynécologues généticiennes qui m'ont accompagnée à Montpellier, justement. Et ce qui a fait que j'ai pu réussir à avoir mon petit Sullivan aujourd'hui, qui est épileptique lui aussi, mais il se bat comme sa maman.
Donc un rêve qui s'accomplissait pour vous.
Voilà, ça a été extrêmement dur, mais voilà, ça s'est accompli et c'est vrai que c'est un combat tous les jours, mais un combat qu'on peut combattre,
Et en étant bien accompagné, on entend cette notion de suivi du coup dont
c'est
vous parlez.
Exactement, au niveau surtout médical, je pense qu'on est capable d'affronter certaines préjugés, certaines choses quoi, de la vie.
On entend un bel exemple là hein, d'une maman qui a avorté quand même effectivement, parce que c'est là qu'on se dit l'information elle est vachement importante pour un patient, ouais. Pour peut-être éviter
oui,
ce genre
sûr.
De situation.
C'est quelque part une grossesse qui survient, qui n'était pas attendue et qui conduit à un avortement, surtout si c'est un avortement parce que ça n'a pas été anticipé, qu'il y a eu une exposition à beaucoup de traitements ou une information médicale insuffisante au préalable, c'est toujours un peu un échec pour nous, hein, c'est évident. Hein, donc c'est voilà, il y a encore des progrès à faire, c'est évident, dans l'accompagnement de ce type de projet, mais effectivement voilà, bon, c'est une histoire qui évolue bien finalement.
Qui est très positive, parce qu'effectivement on voit que Sullivan est arrivé quelques temps plus tard et dans des bonnes conditions. La grossesse s'est bien passée pour vous?
Alors la grossesse ça s'est très bien passée vu que j'ai été suivie au niveau neurologique, cardiologie, néphrologie. Un petit peu tous les spécialistes en fait de Montpellier. Et malheureusement, bon, j'ai dû être quand même... j'ai accouché à 8 mois et demi de grossesse. Parce que Sullivan, lui, il est grand. Il était petit, mais il est grand en taille. Donc, fallait bien le faire sortir, quoi, en fait. C'est un grand gaillard, un petit mais grand gaillard. Donc oui, ça s'est très bien passé. Je n'avais aucun souci que ça soit au niveau pulmonaire ou quoi que ce soit, puisque c'est vrai que la sclérose subérose de Bourneville, il y a aussi des atteintes au niveau pneumologique. Et c'est surtout chez les femmes qui sont plus atteintes que chez les hommes.
Justement, je voulais me tourner vers le professeur Maillard. Vous pouvez nous dire un mot sur cette forme d'épilepsie, la sclérose?
Oui, c'est une forme d'épilepsie qui est extrêmement rare, qui est à la fois d'origine, pour laquelle il y a effectivement un déterminant qui est génétique, mais c'est un déterminant génétique qui entraîne aussi, qui affecte le développement de différents organes, et en particulier le développement cérébral, et donc qui génère des malformations. Donc on dit aussi qu'elle est structurelle, parce qu'il y a une anomalie dans la structure du cerveau, et qui peut aussi affecter le développement d'autres organes. Donc Marie l'a très bien dit, ça peut être les poumons, ça peut être le cœur, ça peut être la peau, les fanères, c'est-à-dire les ongles, les cheveux, ça peut être les reins. Et ces différentes pathologies qui affectent différents organes, elles peuvent survenir à différents âges de la vie. Par exemple, sur le plan pulmonaire, chez la femme jeune, on va beaucoup surveiller la femme jeune. Sur le plan cardiaque, par exemple, quand ça se révèle généralement pendant l'enfance. Et lorsque ça ne s'est pas développé avant l'âge adulte, on est rassuré.
D'accord.
Sur le rein, par exemple, il faut le suivre pendant toute la vie. Voilà. On est vraiment sur une forme très, très particulière d'épilepsie, extrêmement rare et très spécifique.
Oui, mais ce qui montre aussi que même dans ces formes-là, on peut avoir des enfants.
Absolument, absolument.
Qui est quand même un message très très positif. Quand vous étiez dans votre grossesse, Marie, donc vous saviez que vous, alors bon, certes vous n'aviez plus de crise depuis un certain temps. Comment vous avez vécu l'idée de vous dire je vais avoir un enfant et si ça revenait les crises tout ça, parce qu'on l'a entendu, ça fait partie des choses que disent les gens dans la rue. Peut-être le moment le plus délicat, c'est quand on a un enfant, on en reparlera avec Sabrina et qu'on subit des crises.
Pendant la grossesse, vous voulez dire ?
Et après, comment vous avez vécu psychologiquement l'arrivée de cet enfant ?
Alors psychologiquement, c'est vrai que cet enfant, du coup Sullivan, il était déjà prévu avec son papa. Mmh. Donc moi personnellement, la préparation durant la grossesse, je n'avais pas vraiment de crise, je n'avais pas vraiment de soucis. En plus, j'étais très calme, j'étais bien tendue. Parce que quand je suis un petit peu stressée, c'est vrai que j'ai tendance un peu, les émotions, ça se mélange un petit peu. Et comme professeur Maillard a dit un jour que c'est une symphonie et que ça risque de créer de l'orage, quoi, hein, orage cérébral. Donc non, après la grossesse aussi, ça s'est très bien passé malgré la fatigue, en fait. Hein, parce que c'est vrai que j'ai passé 72 heures, 24 heures de travail. Salle d'accouchement pour sortir Sullivan, oui.
Eh bien, dire que c'était vous êtes résistante.
On va dire ça comme ça. Mais oui.
Endurante même.
oui, je vous remercie. Mais voilà, ça s'est très bien passé.
Vous parlez de cette forme de symphonie qui peut devenir orageuse, hein, si je reprends un peu les termes. Ça veut dire quoi ça, docteur Maillard? Ça veut dire que les émotions peuvent recréer des crises ensuite? C'est ça qu'on doit comprendre?
Alors, il y a plusieurs questions dans la question. ce que j'appelle symphonie. En fait, c'est une petite métaphore ou une image que j'utilise pour essayer de décrire le fonctionnement cérébral. Et donc, c'est vrai que le fonctionnement cérébral, c'est un fonctionnement harmonieux où il y a, comme dans un orchestre symphonique, plein de pupitres et tout ça travaille en bonne intelligence. Et finalement, dans la crise... Dans la crise épileptique, l'émergence d'une crise épileptique, c'est comme si vous aviez le pupitre des percussions ou des cuivres qui se met à jouer sa propre partition n'importe comment et qui à un moment donné va créer une disharmonie qui peut soit rester localisée à ce pupitre-là qui va ensuite rentrer dans l'ordre, soit au contraire entraîner le reste de l'orchestre et du coup c'est ce qu'on appelle la crise focale secondairement généralisée. Donc ça c'était pour la petite métaphore. Est-ce que les émotions peuvent favoriser des crises et en particulier les émotions négatives? Très clairement oui. Très clairement oui, il y a énormément de patients qui le rapportent et s'ils le rapportent aussi souvent, je pense pas que ce soit une rationalisation a posteriori parce que il y a quand même toujours un côté imprévisible dans les crises, bien sûr. Et il y a toujours ce besoin chez les patients de trouver a posteriori une raison pour laquelle ils ont fait une crise et qui leur permettrait d'éviter la prochaine. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a clairement un effet, et ça a été démontré maintenant dans de nombreuses études, il y a un effet évidemment du stress sur la survenue des crises. Maintenant, le but des traitements, c'est aussi de permettre aux patients de vivre un certain niveau de stress qui fait partie de l'existence sans que ça provoque des crises.
Ouais, effectivement. Comment ça va avec votre enfant aujourd'hui? Il a 18 mois. Comment est la vie?
La vie, elle est belle, malgré que c'est un combat, hein, quand même.
C'est un enfant. Et vous savez ce qu'on dit, un petit enfant, petit problème, profitez-en.
Merci, c'est gentil.
C'est moyen problème.
Exactement, ça fait...
Oui,
mais vous êtes heureuse, vous êtes une maman heureuse.
Oui, je suis une maman heureuse. Et c'est vrai que ce n'est pas rose tous les jours avec Sullivan parce que lui aussi, il a des suivis médicaux au CHU Brabois enfant pour cause justement de la sclérose subéreuse de Bourneville puisque je lui ai transmis la mutation TSC2. Donc maintenant, il commence un petit peu à faire des petites crises.
D'accord.
Mais il est sous Sabril. Et donc voilà, on essaye un petit
ça
peu.
Brille, de... C'est un médicament, c'est ça?
C'est un médicament, oui, anti-épileptique pour l'instant pour les nourrissons. C'est en poudre hein, pour l'instant, puisqu'il ne peut pas prendre de comprimés. Et il est suivi par une neuropédiatre, madame docteur Clémentine Lambert. Et il a pas mal de suivi neurologique et cardiologie et néphrologie, puisque voilà, il a quand même quelques petits soucis au niveau des reins, au niveau cardiaque, hein, depuis.
depuis du coup ma grossesse. Et puis au niveau cérébral, il a des IRM et des EEG, etc. Enfin voilà.
Si je peux me permettre d'intervenir, Thomas, je voudrais quand même rappeler pour nos auditeurs que cette forme de maladie épileptique qui est transmissible est extrêmement rare.
Oui, c'est ça.
Donc il ne faut pas en tirer des généralités.
J'allais justement me tourner vers vous en disant là on est sur une forme rare effectivement et qui a transmis avec une transmission génétique.
C'est ça, c'est la forme de transmission qu'on appelle monogénique où on a un risque de 50% de transmission en fait. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de risque ou c'est un risque minime.
Effectivement. Bon, cela dit, voilà, l'enfant est là et malgré ce suivi, il y a du bonheur aussi.
Et malgré cette pathologie, on peut vivre et bien vivre.
Exactement.
Comme
la preuve, on a Marie. Marie qui est rayonnante comme Sabrina.
Merci,
sont rayonnantes toutes les deux.
C'est gentil, Thomas.
Mais vraiment. Et depuis que vous êtes rentrée dans cette radio, vous êtes rayonnante, Marie.
J'apporte le soleil.
Exactement. Merci. Je vous propose que dans un instant, on échange avec vous, Sabrina. Vous nous raconterez vous aussi avec votre fille comment ça se passe. Vous nous avez glissé un petit quelque chose tout à l'heure en disant les rôles se sont un peu inversés. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. On va juste se faire une petite respiration avec Christine and the Queen. Qui avait choisi ce morceau de Christine and the Queen?
C'est moi.
Et ben, Sabrina.
En fait, c'est une chanson qui me fait penser beaucoup à l'épilepsie. Les paroles de la chanson, principalement. Je ne tiens pas debout.
Et ben, on va l'écouter ensemble. Avec plaisir. C'est maintenant dans Épices et tout.
Ok. Ouais.
Je ne tiens pas debout. RCN. Et puis c'est tout avec la communauté de pratique épilepsie Handicap Nord-Est.
Et ce matin, on parle de maternité, alors de parentalité plus généralement, mais de maternité avec nos deux témoins, Marie et Sabrina, et de d'épilepsie. Alors, un message quand même qui est très positif, on s'aperçoit, et on va le redire quand même, que on peut avoir des enfants quand on souffre d'épilepsie, et que dans la majorité des cas, il n'y a pas de difficulté, simplement un suivi à mettre en place. Professeur Maillard, si je résume un petit peu en quelques mots, c'est ça
hein? Oui, c'est très bien résumé, oui.
Voilà, que effectivement, on a entendu le témoignage de Marie il y a quelques minutes, qui, elle, tombe dans les cas les plus rares et les plus difficiles, mais en même temps, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a cette possibilité et qu'avec un bon suivi, on peut vivre le plus normalement possible. Il y a effectivement des suivis médicaux à mettre en place, ça demande un peu de lourdeur, j'imagine, au quotidien, mais globalement, on vit, on peut être, et on est heureux comme ça. Hein, ça, c'est important. Sabrina, alors vous, votre parcours de vie est un tout petit peu différent, Sabrina, parce que vous, au moment où vous avez votre enfant, vous n'êtes pas encore épileptique.
Oui, voilà, ma fille avait à peu près 3 ans, oui, donc elle était en maternelle. Et je faisais des crises nocturnes, des crises généralisées, mais comme je vivais seule, pour moi, l'épilepsie, bon, bah, comme les préjugés d'aujourd'hui, je ne savais pas ce qui se passait. Je faisais juste des cauchemars. Mais un dimanche matin, j'entendais de loin une voix « Maman, maman, maman ». Donc, c'est ma fille qui m'a réveillée. Je me suis dit « Là, il se passe quand même quelque chose la nuit. À mon avis, c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Je dois me transformer. Ce n'est pas possible. » Et lorsque j'ai fait venir le médecin, il m'a parlé d'épilepsie. Donc là, j'ai pas compris parce que les préjugés, je les avais également. Donc, c'est pas possible. Je bois pas d'alcool. Je sors pas en boîte. Je lui ai tout sorti. Donc, il m'a dit non, non, mais il faut aller voir un neurologue. Donc, la chance d'être sur Nancy et de faire les examens. Et professeur Maillard, oui, qui m'a annoncé, c'est en effet de l'épilepsie. Bon, bah, il faut s'adapter finalement. Et lorsque le médecin, de professeur Maillard en parlait tout à l'heure, il disait qu'il utilisait des métaphores expliquées à un adulte, vous imaginez, ce que nous, on doit, quelle métaphore on doit utiliser quand on explique à un enfant.
Eh oui, c'est ça.
Un enfant de 3 ans, parce que, bon, l'anecdote qu'a dit Céline tout à l'heure, c'est je me fais plaguer par la maîtresse d'école qui dit voilà, votre enfant nous a dit que ce week-end, un monsieur venait chez vous pour vous mettre des claques. Oui, c'était.
Oui, il faut l'expliquer, ça derrière.
Voilà, dessus, faut rebondir. Bah, écoutez, c'est un pompier. Hein, donc, je ne voulais pas crier non plus à tout le monde, à tout mon entourage, que j'étais épileptique. Et puis, de toute façon, ma vie était parfaitement normale. Bon, il a fallu s'adapter. Et il a fallu surtout que ma fille s'adapte à la situation. Il a fallu que je lui donne des clés.
Parlons-en, justement. Vous nous disiez tout à l'heure, parfois, les rôles, enfin, du coup, les rôles s'inversent, notamment au moment de la survenue des crises.
Complètement, oui. Oui.
Comment vous avez préparé votre fille? Parce que 3 ans, il faut déjà lui donner quelques outils. Et ce n'est pas évident, à 3 ans, de donner des outils à son enfant.
Oui, donc, il a fallu que... On a de l'aide un petit peu comme le livre sur un orage dans la tête. Oui, et puis bon, bah, moi j'utilise aussi les métaphores que me donnait le docteur Clémina. C'était un orage en effet dans la tête et que maman tombait, elle se mettait par terre, il fallait juste attendre et qu'elle avait des réflexes qu'il fallait avoir, adopté. À 3 ans, on s'amuse, on joue au Playmobil et compagnie, mais elle, je lui ai montré comment utiliser un téléphone pour appeler ou un pompier ou une personne de ma famille, de mon entourage. On était toutes les deux à la maison, donc si la porte est fermée à clé du haut de ses 3 ans, comment l'ouvrir? Il a fallu qu'on adapte tellement de choses et puis lui expliquer, parce que maman, est-ce que tu vas mourir? Et qu'est-ce qui va se passer? Je ne te verrai plus. Parce qu'il y avait des phases où j'allais, quand je faisais une crise généralisée, je partais plusieurs jours pour faire des examens. Donc elle était gardée ou par le papy, ou par mamie, ou par le papa, ou par une copine principalement. Et bien souvent, les parents, ma famille avait tendance à lui masquer un petit peu. Où est-ce qu'elle est, maman? Maman, elle ne m'emmène plus à l'école. Maman, elle ne vient plus me chercher. Qu'est-ce qui se passe? Et je n'avais pas pensé. Bon, à un moment-là, on pense à nos crises, à notre corps, à ce qui va se passer pour nous. Et je n'avais pas pensé à l'impact que ça pouvait avoir. Et ma copine, qui est assistante maternelle, lui a dit... avec des mots d'enfant, c'est simple, maman, elle est chez le docteur parce qu'elle est un petit peu malade et elle fait des examens et puis ça va aller, elle va rentrer, ne t'inquiète pas, elle t'a pas abandonné. Et ma fille, tout simplement, oh d'accord, voilà, il suffit simplement de minimiser les choses, rien de dramatique.
Les minimiser, mais les expliquer.
Et les expliquer quand même,
c'est important,
pour qu'elles comprennent très, très bien. Quoi.
Pas les masquer, professeur Maillard, il ne faut pas masquer un enfant, ce que subissent son parent.
Bien sûr, bien sûr. Merci pour ce témoignage, Sabrina. Et c'est quelque chose, moi, en tant que neurologue adulte, dont j'ai pris conscience assez récemment, en fait, je dois dire, de l'importance des aidants et du rôle particulier des enfants, en fait, lorsque on a un parent qui a une épilepsie, et de parfois cet échange de responsabilité qui peut... Et merci de nous sensibiliser à ça, parce que c'est clairement quelque chose qu'il faut probablement aussi accompagner, mieux accompagner, en fait, ces enfants qui se retrouvent dans une position un peu d'adulte à la place de leurs parents, dans certaines situations de crise, mais parfois aussi peut-être... Je ne sais pas, peut-être d'anticipation, parce qu'en fait, entre les crises, il y a aussi la crainte ou l'anticipation qu'une crise puisse survenir, en fait. Et donc je pense que c'est une dimension très importante à prendre en compte chez les enfants de parents dont les crises persistent malgré les traitements. Là encore, je précise, puisque évidemment, lorsque l'épilepsie est bien stabilisée, la question se pose différemment.
J'entends aussi dans ce que vous dites, Monsieur Maillard, la nécessité que peut-être nous professionnels on soit en possibilité de proposer aux parents pour son enfant un tiers qui va venir expliquer avec des supports, avec des outils de sensibilisation, peut-être aussi recourir à l'infirmière en pratique avancée ou à
l'éducation thérapeutique, ça fait un peu du rôle aussi,
ou ce genre de choses. Je sais que voilà, c'est quelque chose que vous avez pu aussi mettre en place pour votre enfant.
Une psy, parce que j'étais démunie, quoi, justement.
Et votre enfant aussi, vous l'avez amené chez un psychologue ?
Oui, justement, oui.
C'est votre enfant que vous avez amené chez
lui. Ce qui se passe, c'est que ma fille avait tendance à poser des questions autour de moi, mais moi, elle ne m'en parlait pas. Elle avait switché, elle avait vraiment pris le rôle, c'est moi la protectrice, c'est moi la maman, je suis là, ne t'inquiète pas. Mais elle avait évidemment ses questions d'enfant, et elle en parlait toujours autour de moi, mais pas à moi, donc je suis allée voir une psychologue, elle a été suivie pendant un an, et en effet, elle a dit, tout simplement, elle prend le rôle de protectrice, mais c'est pas négatif, c'est pas grave, c'est pas mal.
Puis elle est protectrice au moment de la survenue des crises, en fait. Ou elle est protectrice tout
le temps ? Non, tout le temps. J'ai dû éteindre mon téléphone, sinon elle appelle tous les 5 minutes. T'es sûre, ça va, maman ? T'es sûre ?
Elle a 13 ans aujourd'hui, là. Elle a 13 ans aujourd'hui, et donc c'est encore aujourd'hui.
Il lui arrive quand elle est chez son papa. Maman, il est 7h30, c'est l'heure des médicaments. Je reçois un texto à 7h30.
Remarque, comme ça, vous ne les oubliez pas.
Ah, ben oui. Elle est mon alarme.
Bon, mais en tout cas, preuve que voilà, on peut vivre aussi seul avec son enfant en souffrant de d'épilepsie. Alors évidemment, en adaptant, en apprenant, en faisant de la pédagogie, je crois que c'est très important. Peut-être aussi en étendant le réseau des accompagnateurs, vous le disiez tout à l'heure, quand une crise survient, qu'elle puisse appeler quelqu'un de confiance, par exemple.
Je lui avais montré sur le téléphone, il y avait une touche spéciale pour appeler directement papy, ou les pompiers. Bon, c'est compliqué, un enfant de 3 ans qui dit « maman, elle est par terre », ou « maman, elle a fait pipi ». Elle me l'a fait une fois, tiens, c'est une autre anecdote. Elle s'est approchée de moi, elle m'a dit « tu sais, maman, ne t'inquiète pas, un jour, j'ai arrêté de faire pipi ». Oui, donc c'est... Il faut toujours prendre avec le sourire, justement. Elle me fait du bien, elle m'aide, et comme moi, j'ai pu l'aider quand elle était toute petite. Mais c'est vrai, j'ai le sentiment vraiment qu'on a switché, mais pendant les crises, mais c'est au quotidien quand même. Elle s'inquiète toujours, elle s'inquiétera toujours, je pense.
Au moins, tu as quelqu'un d'appui, et surtout qui te, si je comprends bien, qui te renforce, en fait, dans tes quotidiens, surtout lors des crises, etc. Je trouve que c'est vraiment une merveilleuse fille que tu as.
Oui, c'est une bonne poulette. Je te dis coucou, Charline.
Et on l'embrasse. Et j'allais dire, c'est la question que j'allais vous poser. La vie est belle, Marie. Sabrina, pardon. Il fallait bien que je me retrouve une fois dans les prénoms. Sabrina, la vie est belle. Je vais retourner.
La vie d'abord et la vie est belle, oui.
Merci beaucoup, Sabrina, pour votre témoignage. Et vous aussi, vous êtes rayonnante et restée comme vous êtes. Vous êtes formidable. Je suis très heureux de vous avoir accueilli. Et je suis très heureux parce que le message qu'on peut vraiment porter aujourd'hui, c'est dire on peut être parent en souffrant d'épilepsie, on se fait accompagner, on organise les choses, mais après ça se passe bien. C'est, si je devais résumer, et si vous voulez bien, on va finir toujours, j'aime bien finir par un petit vrai faux, et vous allez me confirmer, je vais poser des questions très rapidement, très brèves, vous me dites oui ou non, d'accord? Et on vérifie tout ça. Une femme épileptique ne peut pas avoir d'enfant. Tout le monde peut répondre, professeur Maillard aussi.
Ne veut ou ne peut?
Faux. Ne peut avoir d'enfant.
Faux.
D'accord,
faux,
hein.
Faux, complètement.
L'épilepsie est héréditaire, on l'a entendu.
C'est faux
dans 80
des cas.
Voilà, dans une grande majorité des cas. Il est impossible d'élever seul un enfant lorsqu'on est épileptique. On en a la preuve aujourd'hui. On a deux mamans qui élèvent leurs enfants. Une mère épileptique ne peut pas allaiter. Tiens, c'est une question qu'on n'a pas posée.
Mais c'est quelque chose
qui
revient.
Alors, qui nécessite une réponse qui ne peut pas être vraie ou faux. C'est vrai dans certains cas et c'est faux dans certains cas. Mais je ne veux pas aller plus loin.
Alors, voilà. Moi, si je peux répondre, Thomas.
Oui, Marie.
Moi, en fait, par rapport à l'allaitement, malheureusement, c'était mon but, en fait, d'allaiter Sullivan, mais en vue de mes médicaments, et surtout du triléptal, on m'a dit, non, c'est pas possible pour vous d'allaiter. Du coup, là, il est sous biberon.
D'accord.
On pèse, en fait, le rapport bénéfice-risque.
C'est ça.
Pour toute décision importante.
Et ça rappelle une chose, c'est qu'il est vraiment important que ce projet de parentalité soit aussi en partenariat avec le corps médical. Voilà, ça c'est très très important, je pense, de le retenir aujourd'hui.
Les professionnels de santé en
général. Les professionnels de santé, exactement. Merci à vous tous d'être venus participer à cette émission. Merci beaucoup Marie et Sabrina. Merci pour votre confiance. On est toujours très heureux d'avoir vos témoignages à l'antenne. Merci professeur Maillard. Je rappelle que professeur Maillard, hein, vous êtes responsable du centre d'épileptologie adulte au CHRU de Nancy. Merci de nous avoir accordé de votre temps.
Merci Thomas pour ces magnifiques émissions que vous organisez avec Céline.
Oui, bravo.
Et ben avec grand plaisir et merci à toutes les deux. Merci Céline et Virginia. Un dernier petit mot, quelques ressources quand même à donner et puis la thématique des prochaines émissions.
Quelques ressources, effectivement. Le Bureau international pour l'épilepsie a fait un très bon dossier sur femmes et épilepsie, donc qui reprennent pas mal de choses autour de la grossesse et du rôle de mère et qui donnent notamment tout un tas de conseils pratiques. Bain et alimentation, porter le bébé et les sorties, comment on fait au quotidien avec son enfant. Très intéressant. Un groupe Facebook, c'est Sabrina qui nous a donné cette ressource, les mamans épileptiques. Voilà, des réseaux de soutien, des réseaux d'entraide. Et puis pour les enfants, on a sur le réseau Handicap Rare différents ouvrages, donc on vous redonnera les liens sur le site de l'émission.
Voilà, vous irez
pour
voir
parler
sur la
d'épilepsie
YouTube.
Avec les enfants, c'est hyper important.
Super. Et puis les prochaines émissions,
donc là on fait une petite pause estivale. On se retrouve en septembre pour épilepsie et troubles cognitifs pour septembre. En octobre, épilepsie et scolarité. Et en novembre, épilepsie et impact sur la santé mentale.
Eh bien, j'ai très hâte de vous retrouver au mois de septembre pour aborder toutes ces thématiques. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée. Je rappelle que vous retrouvez l'émission en vidéo sur la chaîne YouTube RCN Nancy, bien entendu, avec toutes les ressources. Vous pouvez retrouver aussi le podcast de l'émission sur www.rcn-radio.org. Je vais y arriver. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt sur RCN.
Merci Thomas.
Merci.
Au revoir.